20h-21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 1er février 1979. L'ayatollah Khomeini est accueilli triomphalement sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran après 14 années d'exil. Khomeini proclame la République islamique d'Iran et met fin à 2500 ans de monarchie. Nous sommes le 1er février 1979. Après avoir survolé le ciel de Téhéran pendant près d'un quart d'heure, le Boeing 747 d'Air France se pose sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran. À son bord, l'ayatollah Khomeini, 78 ans, de retour en Iran après 14 ans d'exil en Irak, en Turquie puis en France. Pour des raisons de sécurité, il a laissé sa femme et ses petits-enfants à Paris. Hier encore, il présidait une prière publique dans un village des Yvelines près de Nofle-le-Château où il a vécu pendant 4 mois. Il y louait une maison et avait installé une tente de prière sous un pommier dans un jardin en friche. C'est de là-bas que le leader religieux, guide suprême de la révolution islamique, a préparé son retour et continué sa lutte contre celui qui régnait encore il y a peu sur le pays, Mohamed Reza Pahlavi, le Shah d'Iran. Lâché par ses soutiens occidentaux, le monarque, contraint à l'exil, vient de quitter son pays après 38 ans de règne. Il ne reviendra jamais. La voie est donc libre pour l'ayatollah Khomeini, accueilli par une population en liesse. L'hystérie s'empare de la foule quand l'imam sort de l'avion. Affaibli par le poids des années, l'homme n'a rien perdu de son charisme, avec sa longue barbe blanche de patriarche et son regard ténébreux sous son turban noir. Dès son arrivée, il ira se recueillir sur les tombes des martyrs de la Révolution, tombés sous les fusillades de la répression pendant les manifestations qui grondent dans le pays depuis plus d'un an. Le peuple y croit, ses discours s'adressent aux plus déshérités. Khomeini, c'est le retour de l'islamisation, du tchador pour les femmes et la chasse au grand Satan, l'ennemi américain avec lequel les relations vont s'envenimer à la vitesse de l'éclair. En novembre 1979, 52 diplomates américains seront pris en otage dans leur ambassade pendant 444 jours, déclenchant l'une des crises les plus graves et les plus longues de l'histoire contemporaine. L'Empire d'Iran disparaît, Khomeini proclame la République islamique d'Iran et met fin à 2500 ans de monarchie. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J qui revient chaque soir sur des événements que l'on a connus ou pas, mais dont la résonance explique le monde d'aujourd'hui. Nous sommes en Iran, donc à Téhéran, le 1er février 1979. Après 14 ans d'exil sous les ordres du Shah d'Iran, l'ayatollah Khomeini rentre au pays. Roger Jiquel au micro de TF1.
On ne peut pas seulement parler d'arrivée triomphale pour l'ayatollah Khomeini à Téhéran. C'est une expression trop faible encore. Comme tous les mots d'ailleurs du vocabulaire synonyme d'enthousiasme. Quand il y a plusieurs millions de personnes sur une route pour accueillir un chef, il n'y a pas de mot possible, sinon peut-être celui de, ou l'expression de, délire collectif.
Vincent Hugeux, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes essayiste et professeur, enseignant à Sciences Po, auteur également du livre « L'Iran, état d'alerte à l'expression édition ». Qu'est-ce qu'on entend par « délire collectif » ?
Sur 30 kilomètres entre l'aéroport de Téhéran et le centre de la capitale, environ 5 millions de Téhéranais et des centaines de milliers de provinciaux qui ont été déversés par des norias d'autocars dans les heures qui précèdent le retour de l'ayatollah Khomeini.
On reviendra, hein, si vous le voulez bien, sur ce retour et ce fameux délire collectif. Un retour, on va dire, triomphal. On y reviendra un petit peu plus tard, mais on va s'attacher d'abord à ce qu'était l'Iran avant le retour, justement, du leader religieux. C'était une monarchie, l'Iran.
Ah oui, alors l'Iran était une monarchie, mais je dirais une monarchie artificielle, même si elle avait un passé impérial ô combien glorieux, puisque la fameuse dynastie des Pahlavi, celle du futur Shah d'Iran, a été fondée par son père en 1925, quasiment ex nihilo, en partant de rien. Son père est évincé comme on congédie un domestique par les Anglais et les soviétiques.
Considérés comme trop proches aussi des nazis.
Absolument, ces complaisances germanophiles ont beaucoup déplu aux superpuissances de l'époque. Et donc le retour de son fils, c'est la restauration d'une monarchie tout juste née. Et donc d'une certaine manière, ce sentiment de revanche pour laver l'honneur d'un père qui encore une fois a été congédié comme un valet de chambre, est sans doute l'un des moteurs de l'ambition parfois délirante de son fils, connu sous le nom de Shah d'Iran.
Voilà, qu'est-ce que c'est que la Révolution blanche ?
La Révolution blanche, ça se joue en 1963. Voilà donc grosso modo une décennie que le Shah d'Iran est au pouvoir. Il apparaissait d'ailleurs dans un premier temps comme un jeune monarque plutôt libéral. Mais la Révolution blanche, c'est un coup d'accélérateur qui témoigne de sa volonté farouche de moderniser à la schlag au besoin son pays. C'est-à-dire qu'il va décréter, d'une part, que l'on va accroître le taux d'alphabétisation du pays, on va multiplier par 5 le nombre d'étudiants des universités en à peine 10 ans.
C'est plutôt vertueux, ça.
Oui, à une nuance près, c'est que quand vous formez des étudiants et que vous censurez la quasi-totalité des ouvrages jugés subversifs, bien leur savoir tourne un tout petit peu à vide. C'est aussi une réforme agraire qui n'est pas sans importance, puisqu'elle va notamment se faire au détriment du clergé chiite. Car il se trouve que le clergé chiite à l'époque est possesseur d'immenses propriétés qui lui rapportent beaucoup d'argent. Donc cette réforme agraire, alors au-delà d'une équité proclamée, elle est aussi perçue comme une sorte de provocation contre ce clergé qu'il veut mettre au pas. Donc c'est ça. Mais le problème de la Révolution blanche, c'est que comme tout ce que va entreprendre le jeune Shah pour faire en sorte, je reprends son fantasme, de hisser l'Iran parmi le club des 5 plus grandes puissances mondiales à la fin du siècle écoulé, donc, eh bien tout ça se fait avec une immense brutalité. Et on va glisser donc du monarque libéral et moderniste, qui par exemple, sous l'influence de son épouse, l'impératrice Farah, va aussi effectivement accorder le droit de vote aux femmes et va faire en sorte qu'elles puissent s'émanciper, notamment via les études. Mais tout ça se fait dans la coercition et en piétinant, je dirais, le traditionnalisme et la religiosité de l'Iran profond.
Alors le Shah d'Iran, il organise des réceptions démesurées. On dit qu'il avait la folie des grandeurs, on va y revenir avec vous, qui justement exaspère la population pour leurs coûts exorbitants, à l'instar de la célébration des 2500 ans de la fondation de l'Empire perse. Nous sommes en 1971 et le monarque livre un discours vibrant.
Aujourd'hui encore, comme durant ton ère, au milieu d'un monde tumultueux, l'Iran se veut le messager de la liberté, de l'altruisme et le gardien des valeurs suprêmes de l'humanité.
Vincent Hugeux, quand on écoute là le Shah d'Iran.
C'est-à-dire qu'on sent bien sa volonté d'inscrire sa propre aventure impériale dans l'histoire longue, en remontant 2500 en arrière avec Cyrus le Grand ou Dariush. L'ennui, encore une fois, c'est que, on l'évoquait à l'instant, c'est une monarchie sortie de nulle part, très jeune au fond. Et puis, surtout, au-delà des fastes qui choquent, bien sûr, l'Iran profond, là encore, il y a une image extrêmement négative de la famille impériale, frères, sœurs, mères, etc., connu pour fonctionner aussi avec, je dirais, le carburant de la corruption. Et de plus, les fastes déployés pour le 2500e anniversaire de la création de l'Empire, donc à Persépolis, ont quelque chose d'assez insolite, parfois cocasse. C'est une fiesta made in France,
c'est
là
dingue.
Encore. Je vous donne quelques exemples. Tout vient par avion, beaucoup de France. Qui fournit l'écaille farcie au caviar et le sorbet au champagne? C'est le restaurant Maxim's. Qui s'occupe de créer ex nihilo, là encore, dans le désert, des jardins fleuris? Eh bien, c'est le pépiniériste versaillais, ça tombe bien, Georges Truffaut. Qui met tout ça en scène? Ah, là, on va sortir des rails hexagonaux. Abel Gance, quand même, hein, le metteur en scène de la grande geste napoléonienne. Là encore, il n'y a pas de hasard. Et puis, un dernier exemple, les costumes tissés de fil d'or des dignitaires de la cour sont dessinés par Lanvin et deviendront la tenue d'apparat des ambassadeurs iraniens dans les années ultérieures.
Donc, c'est ça la folie des grandeurs aussi,
absolument,
du Shah d'Iran.
Absolument.
Donc, ça part dans des délires complets, sur fond de corruption. Donc, ça veut dire aussi que la population, vous parliez vraiment d'une modernisation à la schlag, donc on est dans une population qui est complètement déboussolée, si je comprends bien. qui a perdu ses repères, qui est brutalisé. Et est-ce que la population a faim pendant que le Shah d'Iran organise des fêtes fastueuses ?
Alors, une partie significative de la population, notamment dans les zones rurales les plus arides, effectivement vit dans le dénuement. Et indépendamment de ça, vous savez, il y a une vraie difficulté, il y a un vrai hiatus entre l'Iran religieux, pieux, traditionnel et la présence américaine. Car Le corollaire de cette modernisation, c'est la présence de 38 000 conseillers, alors officiellement civils, mais c'est en civil en treillis. Donc en réalité des militaires, on a par exemple 12 000 sur la base d'Ispahan. Et ce qui choque au plus profond cette religiosité, cette piété iranienne, c'est que les djihadistes américains font de la moto dans la mosquée d'Ispahan.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Voilà Georgie qui vous transporte ce soir en Iran dans les années 60-70 sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, monté sur le trône à l'âge seulement de 21 ans. Il instaure alors un régime alors présenté comme plus démocratique, Vincent Hugeux, mais en fait plus libéral hein, quand on vous écoute.
Moderniste et pro-occidental.
Rompant ainsi avec des années de pouvoir autoritaire de son père, l'Iran avec lui, donc se rapproche aussi de l'Occident. Eh bien ça, à un moment donné, c'est pas du goût de tout le monde.
Pas du tout, parce que de plus, cette fuite en avant de la modernisation, qui avait à l'origine des aspects perçus comme vertueux, notamment de ce côté-ci du monde, eh bien, elle s'accompagne d'une répression implacable. Ce qui va sans doute précipiter le divorce entre le Shah et le peuple iranien, ce sont les méfaits atroces de la SAVAK, sa police politique. Des dizaines de milliers d'Iraniens vont disparaître, hommes et femmes, tous les ans, ou sombrer dans la folie à cause des tortures qui leur sont infligées. Je vous donne un seul exemple. Un ayatollah proche, précisément de l'imam Khomeini, dont on va reparler sous peu, s'est vu plonger quatre membres, les deux jambes, les deux bras, dans un bain d'huile bouillante. Il en est mort, évidemment. Il y a une sorte de génie de la cruauté et de l'atrocité dans les geôles et les cellules de la SAVAK qui rendent évidemment ce régime intolérable.
Il y a des émeutes qui éclatent, des attentats terroristes qui sont perpétrés comme ce 19 août 1978 à Abadan.
377 morts, voilà donc le bilan provisoire et officiel de l'incendie d'un cinéma. Cela s'est passé à Abadan, en Iran. Le cinéma avait été soigneusement bouclé, on l'a arrosé d'essence et il a brûlé comme une torche. Reste à savoir maintenant qui a fait cela. S'agit-il d'hommes de main manipulés par les chefs religieux ? S'agit-il d'une subversion entretenue de l'extérieur et qui rentrerait dans un plan plus général ? S'agit-il par exemple d'extrémistes proches du parti communiste clandestin qui s'appelle le Toudé ?
Et vous aurez reconnu donc Jean-Marie Cavada sur l'antenne d'RTL. Vincent Hugeux, qui sont les commanditaires de cet attentat ?
Alors, il faut savoir qu'il y a différentes factions extrêmement radicales. Car au fond, ce qui soude l'opposition au Shah, c'est simplement sa volonté de le voir partir le plus vite possible. Mais vous avez une diversité, une hétérogénéité prodigieuse. Ça va donc du clergé chiite à des mouvements marxistes, au parti communiste, comme le mentionne Jean-Marie Cavada, donc le fameux Toudé. Vous avez des laïcs libéraux, etc. Donc vous avez des minorités arabes. Donc en fait, il y a l'agglomération de toute une série d'oppositions radicales sans que, bien sûr, tout cela dessine un projet politique cohérent.
D'accord. Donc on sait qui a perpétré cet attentat ou pas ?
C'est une de ces factions ultra-radicales.
Très bien. OK. La tension monte. Le Shah d'Iran décrète la loi martiale. Alors pour faire simple pour ceux qui nous écoutent, il délègue les pouvoirs du maintien de l'ordre à l'armée. Mais c'est le 7 septembre 1978 et le lendemain, Téhéran s'embrase. C'est le Vendredi Noir. De quoi s'agit-il, Vincent Hugeux ?
Le Vendredi Noir, c'est effectivement l'embrasement. On porte à incandescence toute cette colère qui peut s'exprimer de diverses façons, contre les forces de l'ordre ultra-répressives, bien sûr, mais aussi et surtout, je dirais, contre tous les symboles précisément de cette occidentalisation. Un bar, une brasserie, un restaurant, un cinéma. Donc tout ce qui, aux yeux des Téhéranais en tout cas, qui sont adeptes de l'imam Khomeini et de la tradition chiite, représente ce dévoiement de cet Iran qui aurait été vendu à la propagande occidentale.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans les rues de Téhéran ?
Des émeutes d'une très très grande violence et puis une répression qui s'accélère, d'autant plus que le Shah d'Iran a beaucoup hésité précisément avant de donner les clés du camion à l'armée. Car précisément, il redoutait de ne plus pouvoir maîtriser la rue et c'est pourtant ce qui est advenu.
Voici ce qu'en disait justement le jeune Jean-Pierre Pernaut à l'époque au JT de TF1.
Voilà une situation qui demeure très grave donc dans la capitale iranienne. Les émeutes ont commencé, vous le savez, il y a 8 mois dans d'autres villes, mais c'est la première fois qu'elles sont aussi violentes dans la capitale elle-même. Et bon nombre d'observateurs estiment ce soir que le Shah d'Iran aurait perdu son trône aujourd'hui si l'armée n'était pas intervenue avec autant de violence.
Sans l'armée, il ne s'en serait pas sorti face au Vendredi Noir, le Shah d'Iran.
C'est-à-dire que l'armée, d'une certaine manière, par sa brutalité, lui offre une forme de sursis. Mais c'est un sursis trompeur, parce que c'est aussi cette ultra-violence qui va précipiter sa chute.
Quand on lui demande justement à l'époque si les répressions de l'armée étaient démesurées, voici ce que le Shah répondait.
Ça dépend de ce qu'on appelle la main lourde. Pour nous, c'était une question de trahison, quelquefois peut-être excès de zèle. Alors, oui, je devrais presque admettre que peut-être qu'il y a eu la main lourde. Mais devant les intérêts de l'État, que peut-on faire ? L'affaiblissement de mon pays.
Devant les intérêts de l'État, que peut-on faire ?
Mais là, on est dans l'enfermement mental de ce Shah d'Iran qui s'enferme dans le déni.
Il est aveuglé, quoi.
Quand on lui demande, dans une autre interview, ce qu'il pense des contestataires, par exemple de ceux qui jugent obscène le luxe déployé lors des fiestas de Persépolis, il les décrit ainsi, ces contestataires, ce sont de pauvres diables égarés et des criminels de droit commun. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sorte de déni obsidional.
Alors, s'en suivent des grèves qui vont paralyser le pays. Le Shah tente de promettre des réformes en vain. Le 12 décembre 1978, 2 millions de manifestants sont dans les rues de la capitale. Le Shah d'Iran se rend à l'évidence et il prévient des conséquences de l'affaiblissement de l'Iran sur l'Europe. Écoutez.
L'affaiblissement de mon pays aura une telle répercussion sur cette région du monde qui vous fournit l'énergie que vous aussi, votre avenir dépend de nous.
Qu'est-ce qu'il dit là, Vincent Hugeux, finalement
Je dirais que c'est la martingale classique du despote qui sent que le cours de l'histoire lui échappe.
Ouais,
c'est la menace, en gros.
Mais qu'est-ce qu'il dit à l'Occident, là ?
Venez à mon secours, sinon c'est vous demain qui paierez les arriérés de ma chute.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Merci de suivre Jour J. Ce soir, une émission passionnante. Vincent Hugeux, vous êtes notre invité dans ce Jour J, donc qui raconte ce soir, je dirais, la révolution iranienne initiée par l'ayatollah Khomeini. Parce que si le Shah d'Iran a fait souffler un vent de modernité à la schlag, comme vous le disiez, sur son pays au début des années 60 avec la révolution blanche, eh bien, il a suscité les inimitiés des religieux chiites, rejoints par la suite, vous le disiez aussi, par les laïcs et les communistes. Tous lui reprochent aussi son flirt avec les États-Unis, le grand Satan, hein, et sa volonté de moderniser une société traditionnelle. Parmi ses plus fidèles opposants, il y a donc l'ayatollah Khomeini qui prendra le pouvoir en 1979. Qui était-il, Vincent Hugeux ?
Alors d'abord, Ruhollah Khomeini, puisque tel est son nom complet, est fils, petit-fils et frère cadet d'ayatollah, donc de dignitaire chiite de haut rang. Il est marqué par l'assassinat de son père, qui lui sera raconté. Il n'a que 6 mois à l'époque. Son père qui est en fait liquidé par des gros bras d'un seigneur féodal. Bon, ça vous dit aussi ce qu'est l'Iran de l'époque. Études de théologie dans la fameuse ville sainte de Qom, comme on dit souvent en français. Et il accède là à la dignité de Marsha et Tahli, ce qui veut dire source d'imitation. C'est en quelque sorte le grade le plus élevé de la hiérarchie chiite, car les chiites, à la différence des musulmans sunnites, ont bien une hiérarchie. Vous avez l'imam, vous avez l'ojatollah islam, vous avez l'ayatollah, etc. Donc, il fait partie de ceux qui peuvent considérer qu'ils sont des, et c'est le nom qu'ils portent, de source d'imitation pour tout fidèle pieux et se conformant à l'enseignement du Coran. Alors, il va réussir en fait à fragiliser l'assise du régime à tel point qu'en 1964, il est arrêté dans des conditions rocambolesques. En fait, il y a 2 faux jeunes mollahs, donc dignitaires chiites, qui demandent rendez-vous. Ça se fait beaucoup, ils donnent des audiences. En réalité, ce sont des agents de la SAVAK, un poteau musculeux pour le mollah moyen. Et il est assommé, il est drogué, il est roulé dans un tapis. Et là, on l'embarque dans un petit coucou qui l'emmène en Turquie. Et c'est là que commence son long exil de 14 ans, la Turquie d'abord, puis ensuite il se rend en Irak, puisqu'en Irak se trouvent 2 des grands lieux saints de l'islam chiite, à savoir Nejaf et Karbala, qui sont des sites révérés par tout musulman chiite. Et d'ailleurs, il s'installe donc à Nejaf jusqu'à son arrivée dans l'Hexagone.
D'accord. Alors donc, il est viré, quoi.
Ah oui,
il est viré de façon, en plus, parfaitement rocambolesque, vous venez de le dire. Il finit à Neuf-le-Château. En France, dans les Yvelines.
Oui, alors pour l'anecdote, lorsque vous allez à Téhéran et que vous voulez vous rendre à l'ambassade de France, il faut surtout ne jamais dire au chauffeur de taxi « je veux aller rue Neufle-le-Château » puisque la rue de l'ambassade a été baptisée en mémoire de cet épisode mémorable. Il faut dire « je vais rue Neufle-le-Château » car en farsi, la langue, on ne prononce pas de la même manière. Et donc vous voyez sur le panneau d'ailleurs, il est marqué « Neufle, N-O-F-E-L, Le Château, L-O-S-H-A-T-O ». Château où en fait s'installe autour de lui une vraie cour, des conseillers, même lui prétend n'en avoir aucun d'autre qu'Allah, des Iraniens exilés, etc., etc. Et de là, eh bien, il délivre ses oracles. Mais n'oublions jamais que le fait, au fond, de l'avoir exclu de cette manière va contribuer à son héroïsation. Et que c'est ce qu'on appelle le gouvernement des cassettes, c'est-à-dire qu'il a des prêches enflammées contre l'usurpateur, le Shah d'Iran, et ces prêches, évidemment, circulent sous le manteau, ou sous le tchador, ou sous la baïa, hein, le vêtement des hommes, et contribue considérablement à l'écho de son message pugnace.
Donc, il organise la résistance, il organise la révolution depuis Neufle-le-Château, sans relâche.
Sans relâche.
C'est-à-dire que depuis qu'il est viré d'Iran, en fait, il n'a qu'une idée en tête, c'est quoi ? C'est de préparer son retour, quelque part ?
Après donc, cette longue parenthèse irakienne, hein, qui est importante et qui ajoute à sa légitimité. Oui, mais lui considère de toute façon que, inéluctablement, ce régime impie va tomber. Et qu'il faut instaurer ce qu'il considère comme la République islamique. Oui. Alors, sans que vraiment les contours institutionnels de la dite République islamique soient très bien précisés. Hein, c'est encore assez flou. Et puis, évidemment, tout ça n'est pas parfaitement homogène. Vous avez des tendances. Vous avez ceux qui disent, y compris parmi des ayatollahs eux-mêmes vénérés, qu'il faut simplement évoluer vers une monarchie constitutionnelle. Bon, en liquidant bien sûr la SAVAK et ses séides. Et vous avez ceux, et c'est la ligne qui sera choisie par l'imam, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui encore la ligne de l'imam, qui considère que la source du droit, c'est le Coran, et que donc il n'y a pas d'autorité politique plus essentielle que celle du guide suprême qu'il deviendra, même si on maintient les apparences d'une forme de démocratie élective, puisque à côté du guide de la révolution, qui détient la réalité des leviers du pouvoir, il y a effectivement un président élu, sachant que les candidats, évidemment, sont présélectionnés et avalisés par ce qu'on appelle le Conseil des gardiens. Il faut qu'il soit dans la ligne de l'imam.
On imagine bien. En 78, il y a un article qui va mettre littéralement le feu aux poudres.
Ben oui, c'est une manœuvre assez grossière. La presse aux ordres, il n'y en a pas d'autre à l'époque, diffuse des papiers qui tentent à donner de l'imam une image assez infamante, y compris sur ses mœurs et sa vie personnelle. Mais c'est une stupidité sans borne, puisqu'en fait, l'effet boomerang est immédiat. Et au lieu de discréditer l'imam, le régime se discrédite davantage encore aux yeux des fidèles de l'ayatollah Khomeini.
Et en 79, il revient triomphant à bord d'un avion Air France.
Et, oui.
Et c'est là que va commencer le bal des Boeing.
Oui, oui, le bal des Boeing, puisqu'au fond, alors tant pis pour Airbus, hein, on fera mieux la prochaine fois. Mais il se trouve que l'imam Khomeini revient donc à bord de ce Boeing d'Air France. Et peut-être les auditeurs les plus âgés d'entre nous se souviennent de cette image, cette frêle silhouette enturbanée, turban noir, hein, descendant du prophète, c'est essentiel, qui est épaulé par un steward à ses côtés et l'un de ses aides, et qui descend tout doucement l'échelle de coupé de ce Boeing. Et puis c'est d'abord d'un autre Boeing que le Shah d'Iran, d'ailleurs, qui pilote lui-même ses appareils, un Boeing qui est surnommé Shahin, va fuir l'Iran pour se rendre dans un premier temps en Égypte.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit et qui vous éclaire sur RTL et en podcast sur une page de l'histoire de l'Iran. L'Iran qui, au début des années 80, vivra une véritable réislamisation sous l'autorité de l'ayatollah Khomeini. Avant lui, l'Iran était donc une monarchie depuis 2500 ans. Vincent Hugeux, le Shah d'Iran, il a été lâché par les pays occidentaux qui, eux-mêmes, étaient ses alliés, je dirais, dans cet élan de modernité. Le 5 janvier 1979, il y a la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la RFA qui décident du sort du Shah d'Iran.
Rembobinons le film de quelques mois.
Oui.
Le 31 décembre 1977, les époux Carter, Jimmy et Rosalynn Carter, donc le président des États-Unis, réveillonnent avec le Shah d'Iran et la Shah Banu, son épouse, dans leur fameux palais de Niavaran, dans le nord de Téhéran. Valet à la française pour le service, avec une livrée bleu azur, des bas blancs, des escarpins à boucle. Et quand les 12 coups de minuit sonnent, eh bien, le valet en question pose sur la platine Ify un disque d'Elvis Presley et on danse ensemble, les deux couples, sur Love Me Tender. Et c'est le même Jimmy Carter qui va d'une certaine manière pousser dehors le Shah d'Iran quand il mesure à quel point cette impopularité est devenue ingérable et précipite le pays, qui est pourtant un des alliés les plus fidèles des États-Unis dans la région, vers un chaos sans fond.
Le 16 janvier, après 38 ans de règne, le Shah d'Iran quitte le pays à bord de son Boeing. Donc.
Bonsoir. Eh bien, comme prévu hier soir, il n'y a plus d'énigmes sur le départ du Shah d'Iran. Mais les choses ne se sont pas passées du tout comme prévu ce matin. Au lieu de tenir la conférence de presse qu'il avait annoncée, le Shah a fait en sorte que tous les journalistes soient éloignés de l'aéroport d'où il a pris la fuite.
Une véritable fuite, Vincent Hugeux.
C'est une fuite. Donc, il se rend au Caire avec l'aval de son ami Anwar el-Sadat, qui préside alors l'Égypte. Et c'est alors que commence une longue et au fond assez pathétique errance qui sera en plus ternie par la maladie, puisque très vite, il combattra un cancer qui finira par le terrasser d'ailleurs quelques années plus tard. On le verra passer au Maroc, aux États-Unis et notamment une escale exotique aux Bahamas. Il passe par le Panama, par le Mexique et tout ça revient ensuite New York, le Texas de nouveau et l'Égypte donc où il s'éteint.
Roménie a donc la voie libre pour rompre l'exil de 14 ans auquel le Shah l'avait contraint. Il revient donc, et c'est notre jour J, le 1er février 1979. Mais le Shah d'Iran, il avait quand même confié les rênes du pays au chef de la résistance nationale, Shapour Bakhtiar. Ça ne va pas durer longtemps car il quittera lui aussi le pays le 10 février 1979, soit 10 jours après le retour de Roménie.
On vient d'apprendre que Shapour Bakhtiar, le premier ministre iranien, aurait démissionné. La nouvelle n'est pas encore officielle. Shapour Bakhtiar aurait démissionné au cours du Conseil des ministres extraordinaires qui se tient actuellement à Téhéran.
Bakhtiar, il faut dire qui il est. Au fond, c'est le dernier premier ministre du Shah à l'époque où celui-ci espère encore apaiser les tensions. Il va tenter lui-même un compromis. Il propose même de se rendre à Neuf-le-Château, quand l'imam s'y trouve toujours, pour négocier un compromis. Il s'écarterait provisoirement pour revenir ensuite dans un nouveau gouvernement élargi, etc. Tout ça, évidemment, est balayé par le vent de l'histoire. Mais Bakhtiar est un personnage assez intéressant. Il sera d'ailleurs assassiné par des sicaires de la République islamique quelques années plus tard. Parce que c'est un épicurien, c'est un laïcard, qui a d'ailleurs combattu au sein de l'armée française et d'un maquis de la résistance. Donc extrêmement francophile, c'est pas par hasard qu'il revient donc dans la région parisienne après son éviction, mais très franchement, c'est un cataplasme sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que cette tentative de sauvetage in extremis du régime puisse tenir.
Qu'est-ce qu'il a fait après Shapour Bakhtiar ? Il a démissionné, il a fui le pays lui aussi ?
Il a fui le pays, il a vécu en exil, d'où il a animé l'une des mouvances de la diaspora opposée à l'imam Khomeini.
Donc là, Khomeini est seul au pouvoir ? Maintenant, il a la voie libre.
La voie est libre. La voie est libre pour imposer donc la nouvelle norme, la République islamique.
Attendue par le pays, j'imagine aussi, si je vous écoute.
Par une partie du pays, mais il va de soi que l'élite occidentalisée de Téhéran, d'abord, fuit
également.
Il y a une sorte de balai aérien. On va s'installer en Californie, à Londres, à Paris, où donc une diaspora nostalgique va cultiver la mémoire du Shah pendant des décennies. Mais une autre partie, ce que j'appelle l'Iran profond, les quartiers sud de Téhéran, les villes de province, elles se reconnaissent dans ce projet politique-là.
Et donc des scènes de liesse après son arrivée.
Alors ces fameuses audiences, un envoyé spécial de l'Express à l'époque parle de couler de lave noire. Les noirs des tchadors.
Les images sont
impressionnantes. C'est un délire digne de ce que peut inspirer une rockstar. C'est-à-dire que, par exemple, le jour des femmes, eh bien, certaines d'entre elles vont jeter vers la scène le perron où apparaît cette silhouette hiératique et taiseuse, d'ailleurs, vont jeter qui un mouchoir, qui un foulard, qui même un pan de tchador. Un assistant de l'imam va effleurer son abaya, donc sa robe, avec ses morceaux de tissu, et les renvoyer vers la foule. Et vous avez très clairement un système de service d'ordre qui évacue les femmes qui tombe dans les paumes d'émotion et de ferveur.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Dans un instant, nous allons donc nous intéresser à l'Iran de nos jours. Mais restons quand même un court instant sur le retour triomphal du leader religieux, l'ayatollah Khomeini. 11 février 79, Vincent Hugues, il proclame la victoire de la révolution islamique et les pays occidentaux réagissent.
Les États-Unis ont décidé ce soir d'envoyer 6 hélicoptères basés en Grande-Bretagne et un bataillon de Marines en Turquie pour défendre éventuellement l'ambassade américaine à Téhéran et évacuer les ressortissants américains en Iran.
Une certaine prémonition, Vincent Hugues, de la part des autorités américaines.
Cet épisode inoubliable de la fameuse prise d'otage dans ce qu'on appelle là-bas le nid d'espions, l'ambassade américaine. Ce sont précisément des étudiants dits de la ligne de l'imam, donc qui sont les plus zélés de ses partisans, qui vont retenir pendant 444 jours une cinquantaine d'Américains, diplomates ou employés de l'ambassade. Et tout ça va se terminer, j'évoquais Jimmy Carter tout à l'heure, par une opération de secours qui est un fiasco de collection, puisque les hélicoptères qui sont envoyés pour une opération de vive force, comme disaient les militaires, un raid pour libérer les captifs de l'ambassade, eh bien vont s'écraser dans le désert et tout ça vire évidemment au fiasco. J'ajoute un point qui est important, parce qu'il ne faudrait pas que nos auditeurs aient l'impression que lorsqu'il arrive, il règne instantanément sur un pays de lait et de miel. Il va falloir se débarrasser de ceux qui ont contribuent à la chute du Shah, mais qui ne s'inscrivent absolument pas dans le projet de la République islamique. Je pense aux communistes, le parti Toudé, aux gauchistes, ce qu'on appelle les moudjahidines du peuple, et aux laïcs et libéraux qui espéraient une sorte de compromis intelligent entre la tradition chiite et une forme de modernité politique.
Alors qu'est-ce qui va se passer justement?
Il va se passer qu'il y aura des attentats, là encore, terrible. D'ailleurs, l'actuel guide suprême, qui s'appelle l'ayatollah Ali Khamenei, qui a succédé dans ses fonctions à l'imam Khomeini, sera blessé dans un attentat qui va absolument décimer l'état-major de ce qu'on appelle le parti de la République islamique, qui est le seul parti toléré à l'époque, qui est la cible d'un attentat ravageur dans le centre de Téhéran.
Aujourd'hui, l'Iran ressemble à quoi?
L'Iran ressemble à une théocratie, mais une théocratie militaire.
Alors pour ceux
militaire,
qui nous écoutent, une théocratie, donc c'est un État dont le leader est religieux. Il n'y a qu'un Dieu.
Et dont le principe fondateur est, en l'occurrence, la religion chiite, le Coran et la lecture qu'en fait cette famille de l'islam. Mais c'est une théocratie, je dirais, militarisée. Car ce n'est pas que le pouvoir des mollahs enturbanés, comme on le dit dans les increvables stéréotypes journalistiques, c'est aussi le pouvoir de ce qu'on appelle les pasdarans, les gardiens de la révolution. C'est en quelque sorte l'armée idéologique du régime qui ne se contente pas d'être cette forme de garde prétorienne, mais qui contrôle aussi des pans entiers de l'économie. Dans le transport, dans le maritime, dans les télécommunications, etc., etc. Donc vous avez une sorte de mariage, non pas du sabre et du goupillon, mais vous avez le mariage de la Kalachnikov et de l'uniforme du pasdaran.
On dit que d'un point de vue économique, l'Iran a un énorme retard d'une quarantaine d'années.
On est passé de l'époque où le quadruplement du prix du baril de pétrole brut a garni les caisses de l'Iran. C'était à l'époque du Shah d'ailleurs, avec ses projets pharaoniques, là encore, d'énergie nucléaire. Car l'aventure nucléaire de l'Iran ne commence pas avec les ayatollahs, mais bien avec le Shah d'Iran. Et puis là, il y a des mesures de sanctions de l'ONU, sanctions américaines, embargo. Vous avez aussi, évidemment, un affaissement durable du prix de l'or noir. Et tout ça conduit ce pays à une situation socio-économique extrêmement tendue. C'est une révolution qui s'est faite au nom des Mostazafine, comme on dit en farsi, en persan, c'est-à-dire des déshérités. Et aujourd'hui, des déshérités, vous en avez beaucoup en Iran. C'est en plus un pays qui est frappé par des sécheresses récurrentes, qui n'a pas résolu son problème d'irrigation. Et si vous voulez, lorsqu'on réfléchit à ce qu'est l'Iran d'aujourd'hui, moi je me souviens, ça fait à peu près 25 ans que je couvre ce pays, j'y ai accompli une bonne vingtaine de reportages, et donc depuis le milieu des années 90, on me prédit la chute de ce régime archaïque, anachronique, pour hier matin. Ben non. Mais le régime tient pourquoi? Il tient parce qu'il y a une forme de génie politique à faire en sorte que l'on marie une coercition absolue il faut être dans la ligne du régime, sinon on finit au mieux au cachot dans une prison téhéranaise ou ailleurs, mais qui laisse une certaine liberté dans la sphère du privé. C'est ce qui distingue d'ailleurs fondamentalement le chiisme et le sunnisme, l'autre grande famille de l'islam d'ailleurs majoritaire. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous faites chez vous, dans le secret de votre foyer, ne regarde que vous. Et vous avez des tas de jeunes Iraniens que je connais, qui se sont battus, qui pour certains ont vu leurs amis tomber lors de manifestations, les émeutes de la fin des années 90, les manifestations écrasées par l'armée et les milices lors de la réélection frauduleuse d'un président de sinistre mémoire, Mahmoud Ahmadinejad, eh bien ceux-là ont renoncé au combat politique et se réfugient pour certains dans le yoga, pour d'autres dans le business et pour d'autres encore dans l'exil.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour tous nos auditeurs, Vincent et Jeux. Je rappelle donc vos livres, Iran, l'état d'alerte chez l'Express Édition et le dernier, Tirant d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial aux éditions Perrin. Merci à vous, à bientôt.
Vous êtes bien.